Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, cette deuxième édition pour vous parler du match de Ligue des Champions. Et qui sera le finaliste de cette Ligue des Champions? Eh bien, c'est le Borussia Dortmund qui a gagné sa place. Le PSG est éliminé après sa deuxième défaite face aux Jaunes et Noirs, vainqueur au retour comme à l'aller sur le score de 1-0. Deux buts donc sur l'ensemble des deux matchs. Une immense déception évidemment pour les Parisiens et pour leurs supporters qui ont encouragé les Rouges et Bleus durant une grande partie de la rencontre. Ils ont aussi manqué de réussite, ces Parisiens. On va en parler. En tout cas, bravo à l'équipe d'Edin Terzic qui arrive un peu masquée et qui arrive tout en haut de cette compétition européenne, eux qui n'allaient pas en finale depuis 2013. À Madrid, le compte à rebours. Dans 24 heures, nous aurons l'adversaire, donc en finale, du Borussia Dortmund. Le match retour promet d'être tout aussi électrisant, car à Munich, le Bayern et le Real se sont quittés sur un score nul de 2-2. L'ADN de la Casablanca va-t-il primer sur la détermination allemande ? Notre hommage à un homme des livres qui ne reniait pas sa passion pour le ballon rond. Bernard Pivot aimait le sport, il adorait le foot, était un fan inconditionnel de l'AS Saint-Etienne. Il était à Glasgow en 1976 pour assister à la fameuse finale perdue par les Verts. Il est parti hier à l'âge de 89 ans. Pour évoquer le match de ce soir, et je pense que avec une certaine humeur, on va dire, avec nous, ben Naïm Moniol qui est resté là. Bonsoir Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis avec aussi Ludovic Duchesne. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir à toutes et à tous.
Cédric De Oliveira nous attend du côté du Parc des Princes et nous allons aller le retrouver d'ici peu. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission, Mathieu De Gaël est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
J'espère qu'on va les remplir.
On connaît l'importance qui c'est de jouer avec nos supporters.
Dortmund, je pense qu'on va les taper.
Et c'est la mi-temps. Et bien, comme on le disait à l'instant, c'est pas terrible. Hein.
Pour le joueur allemand, deuxième poteau, la vue. Le but du Borussia, il était tout seul. Encore SM Redchan qui vient toucher les espoirs du PSG. Et c'est terminé. C'est terminé au Parc des Princes. Avec cette désillusion pour le PSG, battu 1-0. Et les joueurs du Borussia qui vont célébrer cette qualification méritée.
Oui, le résumé était un peu bref, un peu court. Il y avait pourtant une ambiance exceptionnelle et de très beaux tifos qui n'ont pas suffi donc dans ce Parc des Princes. Les Parisiens sont éliminés par le Borussia Dortmund au terme d'une deuxième défaite face au club allemand. Cette fois-ci encore, ils ont perdu 1-0. On s'attendait à un match flamboyant du Paris Saint-Germain. On a l'impression d'avoir vu pratiquement la copie du match aller dans la roue. Alors, commençons quand même, honneur au vainqueur, par le Borussia. Cédric De Oliveira, bonsoir.
Bonsoir les amis, bonsoir Naïm, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ben oui, dis donc, qu'est-ce que tu deviens?
Cédric, parlons du Borussia qui a évidemment été dans le petit coin où sont encore d'ailleurs à cette heure les supporters du Borussia. Le petit coin dans le parc, ils étaient à peine 3000, hein, beaucoup cherchaient des places dans la journée autour de ce Parc des Princes. Ouais. Ils sont toujours là, ils remuent toujours leur drapeau.
Ils vont passer une belle soirée, mes amis du Borussia, là, nos supporters.
Ouais, dans la capitale. Et ils ont communié avec tous les joueurs. On a même vu ceux qui ne sont pas rentrés sur le terrain. Je pense à Sébastien Haller, aller faire la fête avec eux. Ils étaient évidemment heureux de leur place de finaliste.
Ben oui, forcément. Très, très, très heureux, effectivement. Ils ont couru dès le coup de sifflet final, les Allemands qui ont... on va commencer par eux. Effectivement, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils avaient déjà réussi leur pari au Signal Iduna Park mercredi et ici au Parc des Princes avec un avantage d'un but. On leur promettait de souffrir face à la vitesse des attaquants parisiens, face au soutien du Parc des Princes. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont défendu comme il fallait, ils ont profité aussi de la vitesse de leurs attaquants pour déstabiliser un peu les Parisiens en première période, et puis ils ont surtout profité des erreurs défensives assez classiques du PSG qu'on a vu et revu cette saison en Ligue des Champions, notamment sur un but qui est la copie conforme de celui qui a été encaissé face au Barça, cette tête de Mats Hummels, parce que je me suis un petit peu trompé dans l'euphorie, j'ai confondu avec Emre Can, mais c'est bien Mats Hummels qui a plutôt un bon joueur de tête, qui est normalement à cibler du côté du PSG, Donnarumma n'est pas sorti, le marquage était un petit peu limite, et le Borussia en a profité avec une erreur du PSG, et à l'inverse du Paris Saint-Germain, cette équipe a été réaliste et puis elle a été solidaire avec un plan de jeu plutôt cohérent défensivement, même si elle a souffert en fin de match et qu'elle a eu, c'est vrai, de la réussite à l'inverse des Parisiens qui ont touché 4 fois les poteaux et 6 fois au total sur l'ensemble des deux rencontres.
C'est vrai qu'ils ont été impressionnants quand même, ces joueurs du Borussia Dortmund. On voit sur leur maillot, il y avait déjà marqué London 24. Tout était prêt, bien sûr, mais sans doute que dans le camp parisien aussi.
Oh, mais il y en a des maillots comme ça aussi. Exactement. Dans le vestiaire parisien, mais on les verra pas.
J'imagine. Ouais, peut-être que vous réussirez à en shipper, Cédric. Mais en tout cas,
à mon avis, ils coûtent pas cher, ceux-là.
À mon avis, ils finiront au pilon. Ludovic Duchesne, cette équipe, est-ce qu'elle a été prise de haut par le Paris Saint-Germain depuis le tirage au sort, je disais, parce qu'on dit on est du bon côté du tableau, on a beaucoup entendu ça. Pour une fois, le Paris Saint-Germain a de la chance au tirage.
C'est vrai.
C'est vrai qu'ils étaient du bon côté du tableau. D'ailleurs, les deux, Dortmund et le Paris Saint-Germain. Le tableau s'était ouvert, pratiquement depuis les huitièmes de finale. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que sur les deux matchs, le meilleur a gagné. Et le meilleur a gagné deux fois. Donc quand tu marques
c'est un peu irritant d'entendre certains qui disent le PSG était meilleur, mais c'est Borussia qui a gagné.
Arrêtons,
il y a certains commentaires.
Même si c'est vrai que quand on voit les joueurs sur le papier, le groupe, le budget, le truc, etc., on peut penser que le Paris Saint-Germain est meilleur que Dortmund, mais sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vu. Deux fois, on a vu une équipe qui était mieux organisée, qui était mieux disciplinée, qui avait un vrai collectif avec des joueurs qui étaient au rendez-vous et pas des joueurs qui ont complètement déjoué sur les deux matchs. Et à chaque fois, il y a eu un but, il y a eu des erreurs, c'est vrai, d'un côté et pas de l'autre. Et finalement, Edin Terzic, face au génie de Luis Enrique, s'en est bien sorti.
C'est surtout qu'en fait, on a une équipe dont on comprend ce que fait l'entraîneur et une équipe dont on ne comprend pas. Dortmund, ils ont rien inventé cette saison en matière de football. C'est une équipe qui a deux, trois garçons qui vont très vite sur les côtés. Donc, ils jouent bloc bas, ils défendent bien, puis ils les lancent en contre, et puis, ils font ce qu'ils peuvent devant avec un attaquant qui est loin d'être un génie du foot, et il l'a montré sur cette double confrontation, Füllkrug, mais il met la tête, il met le pied, ils font ce qu'ils peuvent. Bon.
Dortmund, c'est de Giroud.
Giroud est quand même très très bon.
C'est l'équipe finaliste ce soir.
C'est une équipe. Dortmund qui le mérite, mais ils n'inventent rien en matière de football. Moi, je vais pas vous expliquer que c'est un football extraordinaire, chatoyant, machin. C'est un football rudimentaire, efficace, Dortmund. En fait, ils sont efficaces là où le PSG ne l'est pas, parce qu'on ne comprend pas ce que fait Luis Enrique, où il fait une composition d'équipe au match aller sans numéro 9 alors qu'il aurait fallu. Il le met au match retour alors qu'au bout de 10 minutes, ils auraient été de jouer avec lui. Le PSG a systématiquement joué à l'inverse de ce qu'il aurait dû faire, contre ses armes. Ce qu'a pas fait Dortmund. Dortmund a été meilleur, bravo, c'est une surprise.
Moi,
je
veux
pas.
Il y a des bons joueurs.
Je veux pas vous dire, moi je suis avec Dortmund. Au mois d'août, même au mois de décembre, parce qu'il se qualifiait avec le PSG en poule, si vous me dites que Dortmund va en finale de Ligue des Champions, je vous dis non, à mon avis, ils y vont pas. Mais s'ils l'ont mérité.
Surtout qu'on répète beaucoup qu'ils sont cinquièmes de la Bundesliga, mais on avait remarqué quand même qu'ils ont lâché depuis un certain temps. Et encore ce week-end, ils avaient mis une équipe de remplaçants qui a gagné sur le score de 5-1, 10 changements. Et le PSG n'a pas joué au cours du week-end. Mais surtout, Cédric, dites-nous au moins, après on va passer au Paris Saint-Germain, tout le monde a envie d'en parler, mais cette équipe du Borussia Dortmund, il y a de bons joueurs, on était en train de dire. On pense évidemment à Adeyemi, qui est un de ceux qu'on voit le plus sur le côté gauche, mais évidemment, il y en a d'autres.
Julien Brandt,
il y a eu des joueurs, justement Brand qui a fait un match dans la justesse, dans la justesse de choix, dans la justesse technique. C'est un peu voilà le contraste avec le PSG. Naïm parlait d'une équipe où on comprend pas ce qu'ils font. Effectivement, à Dortmund, on a l'impression, en tout cas, que bien tout est cohérent, et c'est-à-dire que les joueurs sont utilisés pour leur qualité, pour ils savent que ils vont pas dominer le match pendant 90 minutes, mais on met des joueurs pour essayer d'exploiter les failles de l'adversaire. En l'occurrence, Adeyemi, en l'occurrence Sancho et Brandt au milieu qui est capable, d'écarter le jeu. Sabitzer, Can qui sont là pour densifier le milieu, pour aller mettre, pour faire des fautes quand il faut. Après, et la défense. Finalement, on n'a pas vraiment souffert. Schlotterbeck, Hummels, on se disait qu'ils allaient souffrir face aux Parisiens. Ils ont joué assez reculé. Finalement, Hummels, il a joué un petit peu dans un fauteuil pendant ces deux fois 90 minutes. Quoi.
Il a marqué
en plus. Voilà.
Et exactement. À la fin, donc, ce sont les Allemands qui ont gagné. Hein. Évidemment, c'est pour le clin d'œil. ça sera peut-être d'ailleurs, qui sait, hein, demain. David Ortolari nous disait il faut se méfier du Bayern demain, évidemment. Et puis, ils auront l'euro aussi sur leur sol en mois de juin. Est-ce l'année allemande ?
La renaissance.
On verra bien.
Curieusement, l'année où le Bayern perd le titre.
Oui. Et encore
que j'appelle de mes vœux
Bayer Leverkusen attention. Aussi remportera
mais tu as raison
surtout même bientôt ils sont pas encore en finale mais pas loin. En tout cas avec les Parisiens il n'y a pas eu vraiment d'étincelle, pas de folie. Écoutons une première analyse de leur rang et celle de leur capitaine Marquinhos.
Ils ont été efficaces, ils ont marqué deux buts, ils ont gagné les deux confrontations comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Je crois que personne, au début de saison, personne allait croire qu'on arrivait jusqu'à là. Nous, on a surmonté beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas les jeter en l'air maintenant, juste parce qu'on a éliminé en demi-finale. Je ramène avec des positives des bonnes choses qu'on peut ramener pour la saison prochaine. Les supporters qui ont été incroyables, on les remercie. Et on voulait y aller jusqu'au bout, ramener cette place en finale au Wembley pour eux aussi. C'est dur, c'est très dur. Parce qu'on pouvait le faire, il y avait de la place, mais il y a manqué d'efficacité.
Et voilà, il manquait 90 minutes pour réussir à atteindre Wembley, ça n'a pas marché. Ludovic Duchesne, on le disait pendant cette rencontre, on attendait de la folie de la part du Paris Saint-Germain, on attendait une étincelle. Vers la 58e minute, on s'est dit, bon, peut-être qu'il se passe quelque chose, mais ils étaient déjà menés 1-0, c'est-à-dire sur l'ensemble 2-0. Et pourquoi il n'y a pas eu ?
Parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain joue selon leurs disciples, Luis Enrique. Et que
oui, mais c'est... ça, c'est un peu normal. Et on lui a tressé beaucoup de
lauriers. Non, mais c'est, je réponds à ta
laurier.
Question. C'est-à-dire qu'ils jouent à leur rythme. C'est-à-dire qu'ils ont le ballon, ils jouent à la baballe en attendant de créer des décalages et de faire des différences. Mais ils jouent au rythme imposé par Luis Enrique. On a vu l'Espagne dans la dernière Coupe du Monde jouer exactement de la même manière. C'est vrai qu'on a l'impression à certains moments de matchs de handball. Et là où on peut avoir des regrets, c'est que quand le Paris Saint-Germain encaisse un but, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'on pouvait faire plus, on pouvait attendre plus, mais les joueurs, ils sont conditionnés par l'entraîneur. J'aurais bien qu'on comprenne ça, parce que c'est vrai qu'on peut...
ça a fonctionné à Barcelone.
En les regardant, parce que peut-être qu'ils étaient à 11 contre 10, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que sur la campagne européenne, quand on fera le bilan, en fait, c'est extrêmement moyen ce qu'a fait le Paris Saint-Germain.
Oui, d'ailleurs, on le disait avec Cédric de Oliveira en première partie.
Voilà. 5 défaites en 11 matchs.
Donc c'est extrêmement moyen le bilan. Donc, avec des défaites humiliantes à Newcastle, au Milan, où il n'y avait rien à dire. Finalement, ils ont fait un grand match à Barcelone, mais le reste est extrêmement moyen. Et un bon match aussi à la Real Sociedad.
Et ils ont perdu deux fois à domicile.
Avec les supporters, oui.
Mais sinon, c'était très moyen, donc voilà.
Naïm.
Sur cette double confrontation. Non, mais.
Merci, Naïm. Franchement, je peux pas mieux résumer, Naïm.
Cette double confrontation, tu te rends compte que. On n'a jamais été en mesure cette année de comprendre quel était le fond de l'attaque du PSG. Au match aller, il fallait jouer avec un 9. L'élimination, tu la perds pas là parce que tu prends un but. En fait, tu es éliminé au match aller. Bon. Quand tu es mené 1-0, tu as besoin de jouer avec un numéro 9 au match aller, tu joues pas avec. Au match retour, tu alignes un numéro 9, tu remets Mbappé à gauche, le numéro 9, ils vont l'utiliser 10 minutes. Allez, un quart d'heure, je vais être gentil. Après, il repart de bloc bas, le mec, tu ne le vois plus. Vitinha, qui est le meilleur joueur parisien cette saison, au lieu de se retrouver aux abords de la surface comme un vrai numéro 10 qu'il est en réalité, il se retrouve quasiment dans l'eau centrale comme un numéro 6, avec en plus un Zahir Emery qui passe complètement à côté de sa deuxième partie de saison.
Depuis des semaines.
Donc voilà, donc c'est vraiment, le PSG n'a pas été bon globalement ni à l'aller ni au retour. Et puis il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est que Mbappé a raté sa double confrontation. Moi, je veux bien qu'on parle de Luis Enrique, qu'on parle de Dembélé, qu'on parle de la défense, le mauvais marquage, la mauvaise Donnarumma sort pas, tout ce qu'on veut. Regardez les matchs que fait Vinicius avec le Real. Regardez comment Manchester City était encore dans la compétition, les matchs que faisait De Bruyne, que faisait Foden.
Regardez, c'est des équipes aussi.
Excusez-moi. On va pas le dédouaner. Je suis désolé. Mbappé est passé à côté de sa double confrontation.
Non, mais évidemment. C'est voilà. Par contre, Naïm, on peut pas comparer ce que font City et le Real avec le PSG.
Je suis pas en train de comparer ce que font City, le Real, le PSG. Je suis juste en train de comparer la prestation individuelle des stars de l'équipe.
Ça, ok, mais c'est le problème de cette équipe, encore une fois, qui n'a pas de marge et qui se retrouve en fait face à une équipe qui a
mais
juste été Cédric, un peu plus intelligente.
Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Mais qu'est-ce que tu constates avec le Real ? Le Real n'a pas tellement de marge non plus. Manchester City n'a pas tellement de marge en Première Ligue.
Ils ont quelque chose de plus cohérent c'est un peu plus facile je pense pour les joueurs dominants de
mais après je suis d'accord
il n'a pas répondu présent sur
à
les
ce moment-là quand on parlera du Ballon d'Or on parlera pas de Mbappé on le mettra pas en concurrence avec les autres.
Cédric, au point sur les statistiques, quand on entend les statistiques, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, il y a eu 30 tirs de la part de Paris. Ça paraît à la fois beaucoup pour une équipe qui n'a pas été si dominante. C'est presque étonnant, la statistique.
Le décompte des tirs, c'est même si tu tires dans la terre et que le ballon fait 3 mètres en roulant à 2 à l'heure, c'est considéré comme un tir.
Cédric. Bon,
après, il y a eu aussi.
4 fois la barre.
Quand même. Voilà, 4 fois. C'est vrai. Mais
les poteaux étaient les adversaires du PSG.
Ils n'ont pas eu de réussite, mais c'est le truc. En fait, c'est difficile d'analyser ces matchs-là aussi.
Il faut la provoquer, la réussite.
Parce que, voilà, il y a ça, c'est vrai. Mais il y a ce côté quand même entre deux équipes qui sont finalement pas très, enfin je veux dire en termes de niveau intrinsèque c'est à peu près la même chose, même si effectivement il y avait plus de talent peut-être sur le papier côté parisien, mais c'est ce genre de match qui peut basculer avec le poteau de Zaïre Emery, peut-être que derrière effectivement le match change, mais il faut les mettre ces ballons, il faut les mettre. Là ça n'a pas tourné du tout du côté parisien, là peut-être la réussite qu'ils ont eu au tour précédent, donc il y a eu des erreurs que le Borussia n'a pas fait.
Mais c'était donc, quand même à l'aller comme au retour de Ludovic. On a vu pratiquement la même chose.
Moi, je pense que, pour répondre à Naïm sur Mbappé et sur d'autres joueurs, moi, je pense que ce match, il est perdu depuis plus longtemps que cette double confrontation. Je pense que les choix, pardon de revenir à ça, mais le choix de Luis Enrique depuis des semaines qu'on vante, parce que tout le monde met en avant ce turnover, le fait que les joueurs jouent pas à leur place, qu'ils sont interchangeables, qu'ils sortent au bout de tant de minutes, etc., etc. Je pense que Luis Enrique, à force de faire mumuse avec son groupe, avec certains joueurs, il les a perdus tout simplement. Il a perdu par exemple Ramos, qui en rentrant sur certains matchs a fait des différences, mais à force de ne pas le faire jouer, il a été ce soir très maladroit. Il a perdu Mbappé aussi depuis longtemps, en le critiquant, en le faisant sortir à la mi-temps à Monaco, au bout de 60 minutes au Vélodrome, il l'a complètement perdu en le mettant au centre, en le mettant à gauche, et ça avec d'autres joueurs. Donc je pense qu'au final, cette tactique-là, ces mouvements avec tous ces joueurs font qu'à un moment donné, sur un match important, tu les perds complètement et les joueurs ne répondent plus.
Cédric, c'est sa première saison à Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, dans une équipe qui a une nouvelle configuration. Les grandes stars, on va dire, étaient parties. On parle d'une nouvelle politique. Oui, bien sûr. Mais je pensais évidemment autant à Neymar qu'à Messi, qu'à Ramos et puis...
Colomoni
Non, Ibou. Non, celui qui était en milieu de terrain, l'Italien.
Verratti, d'accord.
Là, on entend Marquinhos qui dit « En fait, malgré tout, on a fait un beau parcours, on n'aurait jamais cru arriver en demi-finale. » Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on peut mettre en avant quand même, selon vous ?
Selon vous, sur quoi ? Sur l'ensemble de la campagne ?
Marquinhos dit « Bon, allez, il ne faut pas tout jeter. »
Non, mais il y a quelque chose, effectivement, de positif. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu de drame côté parisien. Il n'y a pas eu de remontada. Il n'y a pas eu d'échecs ou en tout cas de matchs que... je sais pas comment dire, mais en tout cas, comme
tu les as eu contre Dortmund, Cédric. C'est-à-dire que les deux non-matchs contre Dortmund, pour moi, c'est pas le remontada, mais c'est largement aussi critiquable.
Mais je pense que c'est pas du niveau, ce sera pas un traumatisme dans le sens.
Non, parce qu'on va tout excuser, parce que c'est Luis Enrique. Sauf que quand tu feras Milan et que tu joues Dortmund, je suis désolé. Moi, je rejoins Naïm sur un point. C'est une équipe qui n'a rien inventé et qui, d'ailleurs, n'inventera rien parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour.
Mais on n'a pas besoin d'inventer pour s'imposer et gagner une compétition.
Mais la preuve.
Mais sauf qu'on peut quand même reprocher à cette équipe du Paris Saint-Germain de ne pas être passée. Parce que avec les joueurs qu'ils avaient, et oui, avec ils devaient largement passer le Paris Saint-Germain. Sur ces deux matchs, ils doivent être en finale tous les jours.
À partir du moment,
sauf qu'ils l'ont pas mérité, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on essaye de dire, en fait?
On n'est pas surpris. Enfin, je veux dire.
Oui, mais il faut.
Il y a une déception.
Comment peut-on penser que quand on va mettre 4-1 à Barcelone, derrière, c'est normal de perdre deux matchs sans marquer contre le Borussia Dortmund?
Ah oui.
C'est évidemment pas possible.
Évidemment, mais il y a une déception et elle est légitime. Mais
on me
posait la question par rapport à toute la saison.
Et non, mais c'est par rapport à ce que disait Marquinhos, bien sûr.
Voilà. Et au début de la saison, si vous m'aviez dit, on l'a dit Naïm pendant la retransmission, si on avait dit que le PSG était en demi-finale,
ah oui, c'est sûr.
On l'aurait pas forcément cru.
Non, c'est sûr.
Voilà.
Il y a eu des
circonstances favorables et voilà. Et après,
la chance au tirage,
cette équipe est complètement imprévisible et qu'elle doit encore progresser sur pas mal de choses. Elle n'est pas vraiment cohérente et ça n'a pas fonctionné face au Borussia.
On va écouter la réaction de Vitinha en sortant de ce match et qui voulait et tenait à remercier les supporters.
On sort avec la sensation qu'on a tout donné. Il n'y a pas beaucoup à dire. Remercier les supporters, ils ont été incroyables tout le match. C'était incroyable. Et je sais pas.
Cédric, la sensation qu'ils ont tout donné?
Pas vraiment, mais après c'est difficile à, encore une fois, à mesurer. J'ai l'impression que ils étaient un petit peu empruntés lors du match aller, notamment en première période. Ici c'était un petit peu pareil sur la première période. On a pas l'impression qu'ils ont vraiment lâché les chevaux. Donc est-ce que c'est les consignes de Luis Enrique? Est-ce que c'est les capacités aussi de cette équipe qui, encore une fois, n'avait pas forcément, on va dire, le QI football pour enfin, c'est une équipe qui, encore une fois, a parfaitement joué le coup. Donc, je sais, j'arrive pas. Je vous dis, c'est très difficile pour moi d'arriver à analyser complètement ce qui s'est passé. En tout cas, le PSG s'est planté un peu. En tout cas, les joueurs sur le terrain n'ont pas répondu présent sur pas mal d'aspects. Voilà.
Naïm, est-ce que on l'avait souvent dit ou critiqué au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on a eu la sensation qu'il manquait quelqu'un qui prenne le
leadership, C'est exactement ce qu'on a.
Non, mais on
en a parlé pendant le match, c'est-à-dire qu'il y a eu le manque de créativité, l'absence de folie, le fait qu'il manque peut-être un leader technique, dû aussi au fait que Vitinha est quand même obligé. Mais il a manqué un leader d'homme.
Quelqu'un
qui prenne ses responsabilités, et on l'a souligné, pareil, Dembélé, Mbappé sont champions du monde, ils valent très cher en transfert, en salaire, on parle tout le temps d'eux, ce sont censés eux être les stars de l'équipe, et au final, alors Dembélé a beaucoup couru, Dembélé, il n'y a rien à lui reprocher sur son investissement, il a couru, il était à droite, il était à gauche, il décrochait, il a très mal utilisé le ballon, là aussi je vais être désolé, très dur avec Mbappé. Est-ce qu'il s'est comporté comme un capitaine? Est-ce qu'il s'est comporté
mais
comme une star?
Il n'est pas capitaine ce
non,
soir.
Non, mais il n'est pas capitaine
lui.
Ce soir parce que c'est Marquinhos, mais il est capitaine de l'équipe
je
de France.
Qu'il a couru aussi, hein.
Il s'est beaucoup caché, moi je trouve. Moi je trouve qu'on a surtout souligné le fait qu'il s'était beaucoup caché, qu'il n'avait pas beaucoup décroché et pas beaucoup apporté de solution.
Non, moi c'est pas ce que j'ai vu. On fait toujours une ficelle.
On n'a pas vu la même chose.
On n'a pas vu la même chose. Moi je crois pas qu'il s'est caché. Je crois que l'équipe aujourd'hui ne joue plus avec lui. Je pense que depuis encore une fois plusieurs semaines, certains joueurs, bien comme Barcola, qui à un moment donné part tout seul, il y a un ballon à donner à Mbappé, il lui donne pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué 90% du temps à droite et on joue pas à gauche.
90% du temps à droite parce qu'il y avait que Dembélé qui décrochait.
Parce qu'il était à droite et voilà.
C'est vrai que c'était assez criant. Enfin, en tout cas, il y avait un déséquilibre total.
Et oui, depuis longtemps.
J'ai l'impression que Dembélé. D'ailleurs, on l'a dit, Naïm aussi. Il était là, il était partout. Il essayait d'accélérer. Enfin, limite, c'est limite s'il voulait centrer les ballons pour lui-même. Et de l'autre côté,
il était très mal.
Les attaques sont beaucoup venues du même côté ce soir.
De droite,
quand même,
de
c'était assez
prévisible. Oui, parce que Hakimi, beaucoup d'activité. Dembélé, beaucoup d'activité. Mais côté gauche, moi, je suis désolé.
C'est pas une question d'activité. Si au départ de ton action, tu joues 9 fois sur 10 à droite,
parce qu'il a pas le droit, parce qu'il a pas le droit. Attends, excuse-moi, il a pas le droit de dézoner. Le premier quart d'heure quand Ramos prend tous les ballons, il va pas dans l'axe pour prendre sa place.
Ça t'a pas échappé.
Il peut pas décrocher pour venir apporter une solution.
Ça t'a pas échappé qu'ils sont deux. Non, mais ça t'a pas échappé qu'ils sont deux. T'as Hakimi et Dembélé. De l'autre côté, il est tout seul, hein, parce que Nuno Mendes, il est hors sujet sur toute la ligne. Il est incapable de faire un appel. Il est incapable de donner un ballon devant.
C'est tout derrière.
Il avait aussi un sacré client avec Sancho.
Bah on l'a vu, ouais, il a été dépassé sur les deux matchs, donc
plutôt à l'aller, mais c'est vrai que là c'est
tout la renaissance de Sancho. Ça a été facile pour lui.
Écoutons la réaction du président du club qui était prêt à enlever les sièges dans le Parc des Princes pour mettre de l'ambiance et pour que les supporters poussent son équipe en finale. Il s'agit du président Nasser El Khelaïfi, président donc du PSG.
On est très très déçus sur le résultat. Triste bien sûr, mais je pense qu'on a mérité mieux ce soir. On a un total aujourd'hui, c'est 4 fois. Un poteau, match la semaine dernière deux fois, ballon ne va pas rentrer. C'était difficile, mais vraiment les joueurs, coach, on a donné tout, le supporter, honnêtement, c'était la soirée, on peut gagner, on peut qualifier, mais notre objectif est d'aller à la finale, mais c'est la faute, on va accepter, quelquefois c'est pas juste. Mais on va accepter.
Et oui, bien sûr. Hein. Le sport, c'est pas juste.
Bah, si c'est juste, là, en l'occurrence. Hein,
ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà. Ouais, bah,
pardon, c'est juste. Hein, et le football, il ne triche pas, là. Hein. À part, par exemple, on peut. Après reprocher par exemple un arbitrage encore une fois très moyen puisqu'il y a un penalty qui n'est pas sifflé à la fin.
Orsato, il est pas moyen sur le match.
Non, le penalty, il est pas à Naïm.
Sûr.
Je suis pas sûr. Sur Mbappé.
Pas penalty sur Kylian Mbappé. La surface de réparation.
Non, mais tu rigoles. C'est Mbappé qui lui met la main comme ça. Il y a pas penalty.
Il retient le bras.
Mais jamais de la vie, il y a penalty. Jamais de la vie.
Tu reverras les images.
On les a vues les images.
Il y avait aussi à un moment donné, il y avait le crochet de Dembélé là qui était.
Le contact en dehors. Orsato était bon.
Non, mais c'est en fait, c'est vraiment encore une fois, c'est plein de.
Après Naïm, c'est pas toi qui décides s'il est bon ou pas. Moi, je te dis que quand il y a penalty sur une double confrontation.
Et juger, c'est très important.
Mais moi, il y a surtout un problème. Encore une fois, Nasser El Khelaïfi parle de justice.
De toute façon, la justice ridicule. Dans le sport, c'est le résultat. Et vraisemblablement, en gagnant à l'aller et au retour, je vois pas comment on peut parler d'injustice.
On peut être
déçu.
Si on est parisien sur cette double confrontation, on peut être déçu de ce que le PSG a montré.
Oui, surtout.
Voilà. Je dis pas que le Paris ne s'est pas démené, n'a pas bataillé, mais il y a des joueurs qui auraient pu montrer plus et il y a une équipe qui aurait pu montrer plus sur cette double confrontation.
Je vous propose d'écouter la réaction d'un des joueurs du Borussia Dortmund. Et alors, ils s'expriment tous, hein, je le souligne, au micro de nos confrères de Canal+, qui retransmettent le match et qui ensuite ont accès à tous les joueurs. Il s'agit de Sébastien Haller, le buteur l'attaquant ivoirien de cette équipe qui n'a pas joué, hein, il n'est pas rentré, pas plus au retour qu'à l'aller. Mais vous allez l'entendre, il reste optimiste et de toute façon, il est finaliste.
La joie est là, on sait que même si je ne suis pas rentré aujourd'hui, je sais le travail que j'ai fourni aujourd'hui pour aider les coéquipiers, donc je suis vraiment fier d'être là avec eux. Je suis vraiment fier aussi de la performance de mes coéquipiers aujourd'hui et je sais que je serai utile à un moment donné, quoi qu'il arrive.
Sébastien Haller, donc, on regrette presque de ne pas l'avoir vu.
Oui, mais au vu de la physionomie du match, je pense qu'il faisait davantage rentrer des défenseurs que des attaquants.
Oui, donc, exactement.
Non, et puis au moins, ça le ménage, parce qu'il a une saison et une année, 18 derniers mois, très difficile. Moi, je préfère qu'il ne fasse pas la demi, et puis le voir en finale, et puis il a gagné la CAN. Si jamais Dortmund venait à gagner la Ligue des Champions, ce serait une belle année pour lui.
Ouais. Vous l'aviez rencontré à la fin du match à Dortmund, Cédric?
Ouais, on l'avait croisé effectivement en zone mixte. On a pris quelques minutes pour discuter un petit peu et il nous disait un petit peu on tenait un peu le même discours que ce qu'on vient d'entendre sur
lui
le fait
qu'il n'est pas très loin du Parc des Princes.
Harris Orangis effectivement et qui était un petit peu à la maison et match particulier pour lui, mais c'est vrai que une saison un petit peu particulière. Il est revenu de il avait marqué à l'aller contre l'Atlético de Madrid.
Oui.
Il s'est re-blessé la cheville, il était dans le groupe, mais effectivement Edin Terzic a
il le garde pour la finale.
Et puis bon, quand on voit l'enchaînement de Füllkrug au match aller, le choix a été bon pour le Borussia et il sera sans doute remis d'ici la finale le 1er juin à Wembley.
Cette équipe du Borussia Dortmund elle a quand même un côté presque héroïque, Ludovic, vous ne trouvez pas une équipe unie et qui bah, est allée...
Comme toutes les équipes qui font une épopée, ouais,
ils ont pas voilà, prévu. C'est ça.
Ils ont fait avec toutes les équipes qui font une épopée. Ils ont fait avec leurs moyens.
Ils ont ce truc avec Marco Reus.
Ouais.
Puis votre en championnat préféré, Naïm.
Ah oui, bah, préféré. Bah, qu'est-ce qu'il est fort, Marco Reus. Et...
mais... Ah non, mais en tout cas, ils vont peut-être aller lui offrir.
C'était cadeau parce que sortir Adeyemi à ce moment-là, quand même.
Ouais, on s'est fait.
C'était étonnant. C'était quand même très étonnant.
Mais c'est l'épopée du Borussia Dortmund est fantastique. Hein. Je veux dire, ils sortent d'une poule. Faut se rappeler ce qu'on dit au mois d'août. Hein. Au mois d'août, c'est Paris Newcastle qualifié. Et puis pour la troisième place, ça va jouer entre Milan et Dortmund. Mais comme Milan sort d'une demi-finale,
surtout après premier match, on voyait plus le Milan. 2-0
au Parc. On se disait ça.
On voyait plus Milan se qualifier.
Et Dortmund. Et finalement, Dortmund sort de la poule correctement.
Premier.
Ils ont tapé l'Atlético.
En perdant le premier match au Parc des Princes.
Ils ont tapé l'Atlético et ils éliminent le PSG. Et alors évidemment, quel que soit l'adversaire en face, ils seront évidemment pas favoris. Ils l'étaient déjà pas en quart de finale.
Que il y a une voilà, on le disait tout à l'heure dans l'émission à 18h, enfin à 16h10 temps universel, mais. C'est quand même il y a une baisse de niveau, enfin en tout cas il y a des équipes qui sont moins dominantes dans cette partie de tableau. Il y aurait pu avoir l'Inter Milan qui était peut-être un peu plus costaud, qui a flanché face à l'Atlético. Non mais c'est pas pour enlever le mérite du Borussia, c'est juste pour expliquer que ben voilà, il y a des équipes qui se retrouvent voilà, qui sont pas moyennes mais qui sont un peu outsiders.
Non mais tu verras Cédric, moi voilà, je pense que tu sais, la dernière on disait que l'Inter avait aucune chance contre le Manchester, en fait ils ont fait une très bonne finale et moi je suis pas surpris si le Dortmund faisait une très bonne finale, je sais pas contre qui, surtout contre le Bayern, parce que cette année ils ont gagné au Bayern, donc ils sont capables, pourquoi pas, de gagner avec des champions.
Mais on faisait,
et tant mieux pour eux, voilà. Franchement, sur ce qu'ils font, ils sont méritants.
Mais bien évidemment. Mais on faisait l'analogie aussi tout à l'heure avec le Chelsea de 2012.
Ouais,
exactement.
Ils avaient changé d'entraîneur, et puis ils ont fini par la gagner, donc c'est le propre de cette compétition.
Qui change pas, c'est le PSG.
Un petit peu, mais bon, voilà, encore une fois.
On évoque le Bayern Munich. On va aborder cette demi-finale autre qui se déroulera demain soir. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira, d'avoir été en direct sur RFI. Et d'avoir relaté.
Merci à vous,
félicité les vainqueurs du soir pour nous et racontez-nous la tristesse du Paris Saint-Germain. On continue avec les débats qu'on a eus cet après-midi au sujet de cette demi-finale d'abord qui aura lieu demain à Madrid. Chorale de l'hymne madrilène en 2013, lorsque les chanteurs d'un jour étaient les héros d'un soir en remportant enfin cette décima. Il y avait encore Gareth Bale, il y avait encore Iker Casillas, il y avait encore Benzema, et Cristiano Ronaldo, bien sûr, cette 10e Coupe d'Europe qui se refusait au Real Madrid depuis si longtemps et qu'ils avaient remporté avec Carlo Ancelotti. Eh oui. Et cette fois à la Casablanca, on rêve de décima quinta, parce que depuis, ils en ont gagné quatre autres.
Juste.
Ça serait donc la 15e à leur portée. Demain soir, les Merengues joueront à Bernabeu face au Bayern Munich après un épique 2-2 au match aller. La fête, en tout cas, est du 36e titre remporté au cours du week-end par les Espagnols. Ils ont remporté la Liga. La fête a été reportée, c'est ce qu'assure Carlo Ancelotti.
Nous étions très heureux du titre de champion remporté samedi, bien sûr, mais c'était une joie contrôlée, car nous devions préparer la rencontre face au Bayern. Nous l'avons fait, maintenant nous avons le temps. La Liga est dans la poche et jeudi, on va réfléchir à la manière dont on va fêter ce succès, mais nous ferons la fête, je peux vous l'assurer.
Et d'ailleurs, ils veulent faire la fête dès jeudi. Alors jeudi, seront-ils qualifiés en finale ou pas? Le Real Madrid, d'abord Bruno, c'est une équipe, on le sait, En plus que, alors, on disait que le BVB se révèle dans cette compétition, mais eux, ils ne se révèlent pas. C'est leur nord de chaque saison.
Oui, on a même l'impression qu'ils s'en nourrissent, en fait. On a l'impression que, un peu comme les monstres, quand ils avalent un peu au fur et à mesure de la compétition, ils grandissent, ils grandissent, ils sont de plus en plus impressionnants. Moi, je ne les trouve pas impressionnants, mais je les trouve tellement chirurgicaux. Quand
ils sont impressionnants peut-être pour ça, justement.
Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 matchs de matchs à élimination directe cette saison. Un seul. Le reste, c'est des matchs nuls. Ils ont souvent souffert. Contre Leipzig, ils ont énormément souffert.
Deux fois.
Avec des décisions arbitrales qui ont été un peu dans le sens madrilène. Contre City, ils ont été bousculés, ballottés, mais ils n'ont jamais rompu. Ils ont cette force-là.
Ah oui.
Sans être une... C'est pas le plus grand
Real.
Au match retour,
c'était impressionnant.
C'est pas le plus grand Real des 10 dernières années. Mais il a cette force-là intérieure qui est assez extraordinaire, sans avant-centre.
L'illustration à Nice, c'est la semaine dernière. Ouais, il y a un moment où ils prennent 2 buts consécutifs. On a la sensation qu'ils vont peut-être être
Mais surtout, déjà, ils marquent contre le cours du jeu.
Oui, mais c'est ça.
Comme souvent, contre le Bayern, t'es à 15 minutes où ils sont à la rue complète.
Et c'est eux qui ouvrent le score.
C'est eux qui ouvrent le score.
Et pareil pour égaliser derrière, pour sauver les apparences. Mais c'est plus que les apparences. C'est-à-dire que là, ils sont en situation quand même pas confortable, mais
favorable.
Plutôt favorable chez eux.
Eric, vous, ce Real Madrid, parce que c'est vrai, on dit qu'ils ont l'ADN, mais c'est vraiment l'histoire du roseau de la fontaine, quoi. Ils ploient, mais ne rompent jamais. Alors, ça leur arrive, l'année dernière, ils avaient d'ailleurs été éliminés après un 4-0, mais ils ont appris, parce que cette année, ils n'ont pas repris 4-0 du côté de Manchester City. Et effectivement, ils se nourrissent de ça. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est ça. On regarde en se disant, non, ça ne va pas passer, mais ça passe.
Non, mais ça passe parce qu'aussi, il y a une culture de la victoire et d'être solide comme ça ensemble. Même, tu
ils
souffres.
Ils paniquent jamais.
Tu souffres, mais ils savent très bien qu'à n'importe quel moment,
mais
ils vont
que
faire
Carlo
la différence.
Ancelotti,
bien sûr.
Il ne hurle pas sur le bord de terrain.
Cette équipe lui ressemble.
Carlos
en fait.
Bianchi nous dit toujours, ceux qui hurlent sur le terrain, de toute façon, les joueurs ne les entendent pas. Il trouve que c'est
bien
du
sûr.
Cinéma. Carlo Ancelotti, c'est je mâche mon chewing-gum, plus ou moins vite. Mais...
Après, il y a le discours qu'il a avant, il y a la confiance qu'il laisse, parce qu'il y a une certaine liberté aussi à ses joueurs. Il y a la qualité, quand tu as un Kroos qui a 75 ans et qui te fait des passes comme ça, mais c'est un régal, et qui est changé par Modric derrière, et qui te régale.
Qui en fait une autre
et tu te dis, mais c'est quoi ça en fait Mais les mecs ne meurent jamais, et sont là, et il y a une culture, et tout ça, ça... Ils ont traversé des années comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette fragilité de se dire « on est en train de se faire bouffer » parce que... Non, il y a cette solidité naturelle. Et puis derrière, il y a la qualité technique parce que c'est ça qui fait la différence.
David, est-ce qu'on tremble à Munich face à ce score qui finalement ne les avantage pas forcément, quoi. 2-2, tout le monde est dos à dos.
David, si tu nous dis le contraire, alors là...
Non, mais ils ont raté le coche. Moi, je trouve qu'ils ont raté le coche à l'aller.
Ils ne tremblent pas du tout.
Les Allemands ne tremblent
pas du tout. Non, mais alors, toute proportion gardée, il y a quand même un peu de ce qu'on décrit là aussi côté Bayern. Bon,
oui,
il y a
36 vrai,
titres au Real, il y en a 33 côté Bayern, mais l'histoire n'est pas exactement la même puisque la Ligue des Champions, la Bundesliga, c'est 1963, le départ. Mais il y a cette culture-là aussi, c'est-à-dire que même si ça penche un peu pour l'adversaire au match aller, vous avez des Müller, vous avez des Kimmich, vous avez des Neuer qui vont vous dire, mais on a toutes nos chances. Alors après, on peut faire des calculs, on peut dire c'est 60-40 pour le Real, on peut dire effectivement ça peut tourner sur une action parce qu'effectivement à l'aller, Vinicius.
C'est incroyable.
Il est indescriptible. Et ça tourne sur une erreur de Minja Kim, le penalty. Peut-être que Neuer aurait pu récupérer le ballon. Mais le Bayern sait qu'il
même
a ses chances
Neuer.
Aujourd'hui.
Oui.
Demain.
Oui, ça sera demain soir. Et justement, il y a un des camarades de Vinicius, parce que c'est quand même l'homme du doublé, rappelons-le. Il marque un pénalty, il est bien concentré jusqu'à la fin du match, parce que c'est évidemment très important. C'est l'attaquant brésilien et donc double buteur, le fameux Vinicius Junior dont parle Dani Carvajal.
Je pense que Vinicius s'est amélioré dans tous les domaines, dans la finition, physiquement, dans sa maturité, dans son jeu, en sachant que quand il prend l'espace, il doit demander le ballon. Il est très fort, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il le montre chaque jour. Nous savons que Vinicius travaille beaucoup. Il a des séances particulières de physio et de coaching et tout cela fait de lui l'un des meilleurs au monde. Et j'espère que demain, sur le terrain, il pourra nous aider à nous qualifier.
Lui aussi est élégant,
Toni Kroos. Quel bon ballon.
Magnifique pour Vinicius. Le Real entre en scène et cela fait mal. Vinicius, Neuer. Vinicius, la force de l'habitude.
Vinicius, le plus dangereux
Oui, alors en plus, d'autant plus, Annie, que la défense du Bayern a quand même, elle a beaucoup changé. Tourelle a mis du temps à installer une défense qui était assez improbable, puisque Eric Dier arrive. Il est finalement à côté du néerlandais De Ligt. C'est les deux qui fonctionnent le mieux, mais De Ligt n'était pas apte au match aller. C'est Min Jae Kim qui n'a pas encore confirmé son rôle de monstre, puisque c'est comme ça qu'il était appelé à Naples depuis qu'il est arrivé au Bayern. Donc forcément, il y a aussi, ça flotte un peu. On a passé Mazraoui, le Marocain, qui est très bon avec le Bayern,
très bon
de
joueur,
droite à gauche. Et il y a des petits comme ça. Pour Tourelle, ça a été compliqué quand même cette saison. Et Vinicius, dès qu'il y a 10 cm, il va savoir en profiter, bien sûr.
Vinicius, c'est l'homme qui... On avait vu Rodrigo avant, l'autre Brésilien, faire basculer notamment face à Manchester City. Ouais. Donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre, on peut dire, Bruno.
Oui, on va pas dire que c'est des jumeaux, mais c'est vrai qu'ils se complètent bien et dans un rôle un peu à part, parce qu'il n'y a pas d'avancement de cette saison, donc ils sont tous les deux assez libres. Moi, quand même, un mot sur Vinicius, je trouve qu'il est trop souvent oublié des débats quand on parle de Ballon d'Or, quand on parle de meilleur joueur du monde. Moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, qui est en progrès constant, année après année. Je regardais ses stats cette saison, il est à quoi, 21 buts, 11 passes décisives en 35 matchs. Il est exceptionnel. Il est bon dans les grands rendez-vous. Ça, c'est quand même l'ADN des grands joueurs. Et surtout, il a, même quand il ne fait pas un grand match, il est capable en deux secondes de faire basculer la rencontre. Il a une qualité extraordinaire. Maintenant, il tire les pénaltys et il est bluffant. Et franchement, c'est un super joueur. Et il n'est pas le seul parce que Bellingham était un peu discret sur le match aller, mais c'est un immense joueur. Oui. Rodrigo, Modric, quand il rentre en cours de match, il apporte aussi son expérience. Enfin, c'est un effectif extraordinaire.
Eric, vous seriez face à eux ? Attention, danger ?
Non. Ben évidemment, comme tout le monde. Non, mais bien sûr. Après, il y a aussi un collectif, c'est-à-dire qu'on parle des individualités depuis tout à l'heure.
Bah oui.
Mais il y a un collectif dans cette équipe.
Bah oui, on parlait de Toni Kroos, on parlait de.
Donc il y a une mentalité, il y a des individualités et il y a un collectif et il y a un entraîneur. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que ils ont plus de chances que les autres de gagner les matchs.
On verra ça demain. Demain, on reviendra évidemment sur cette demi-finale retour du côté de Madrid. Pour l'instant, on va rendre un hommage dans Radio Foot à un grand monsieur des livres qui adorait le foot.
Quand je suis sur un stade ou devant mon petit écran et quand je vois un très beau but, pensez bien que j'oublie tout. Et quand je me balade en voiture, comme ça, dans une ville, en banlieue, et que sur un terrain cabossé, je vois les rouges contre les bleus, ce sont des corpos ou des juniors, je m'arrête et avec un grand plaisir, je regarde jouer, même s'ils jouent pas très bien. Parce que c'est ça, quand on aime le football, c'est pas seulement penser à toutes les affaires qui sont derrière. Mais en tout cas, vive le football.
Il a beaucoup bercé nos vendredis soirs avec ses débats parfois vifs autour des dernières parutions littéraires, entourés d'écrivains, parfois perdus dans le halo des cigarettes, des piles de livres toujours impressionnantes sur la table dont il donnait l'impression de tout lire et d'avoir tout lu. Au début, les images d'Apostrophe étaient même en noir et blanc, puis elles sont passées en couleur, un peu palichonnes les couleurs, et Bernard Pivot paraissait si à l'aise, si convaincant pour donner envie de lire, de découvrir le monde à travers les livres. Mais l'iconique animateur de l'émission Apostrophe durant 15 ans, puis d'autres émissions culturelles à la télé française, un Bernard Pivot disparu hier à l'âge de 89 ans, était un fou de foot. Il en parlait, l'écrivait, le chroniquait. Un Lyonnais de naissance, mais fan de Saint-Étienne. Mais à l'époque, c'était sans doute la grande équipe. Ouais. Des Verts qu'il avait suivis jusqu'en finale à Glasgow, dans ce fameux match contre le Bayern Munich. Et cet intellectuel aimait parler de sa passion, même s'il aimait aussi intellectualiser cette passion. Écoutez cet extrait.
Je ne cache surtout pas mon amour pour le football.
Moi, c'est intéressant d'avoir, d'aimer deux ou trois équipes par rapport à d'autres, parce que ça donne du piquant au match que l'on voit. C'est intéressant. Et surtout, l'extraordinaire sensualité du ballon quand il touche le filet. Et alors, quand on a joué, évidemment, ça fait qu'on a la chance de marquer un but, c'est encore une sensation encore plus grande. Faites l'expérience. Un enfant de 2 ans qui vient juste de marcher, mettez un ballon devant lui, il ne va pas se baisser pour le prendre. Il va donner un coup de pied
dedans.
Donc, je pense qu'on a inventé le football avant le basket ou le volley. J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, sans être un joueur bien doué. Mais j'étais un joueur obstiné, têtu et gagneur. J'étais dans un pensionnat et quand on allait jouer à l'extérieur, évidemment le jeudi, eh bien, c'était l'occasion de quitter les murs du collège. Et quand on revenait avec une victoire, on donnait l'assurance à ceux qui étaient restés à l'intérieur des murs que non seulement à l'extérieur il y avait la liberté, mais à l'extérieur il y avait la victoire. On pouvait revenir avec la victoire, ce qui était formidable vis-à-vis non seulement de nos condisciples, mais aussi des professeurs.
Il en parlait bien, il en parlait autrement. Lui qui avait rêvé d'intégrer le journal L'Équipe à l'époque, hein, quand il était sorti de son école de journalisme. C'était une émission avec Anne Sinclair. Eric, vous l'avez croisé
Non, j'ai jamais eu cette chance. Moi, j'ai toujours été admiratif de ce personnage. Et là, de toute façon, juste à écouter l'interview, c'est passionnant. Et puis, il a
un autre regard, bien
oui,
entendu.
Mais en plus, il a les mots pour traduire un petit peu sa passion. Donc franchement, j'ai toujours beaucoup aimé. Il a toujours dégagé, je vous disais, un charisme un peu particulier et une intelligence, mais humble. C'est pas le gars qui était là pour étaler sa science et qui était vraiment là pour écouter les autres et partager surtout.
Oui, être un transmetteur finalement, ce qui est le rôle d'un média. Bruno,
Moi, je trouve que c'était l'un des rares traits d'union en France entre l'intellectuel et le football, parce que le football en France est vu un peu beauf, un peu
populaire.
Un sport de populaire, c'était, un peu sauvage, un peu sectaire. Ce qui n'est pas le cas en Argentine, ce qui n'est pas le cas en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, au Brésil, où il y a vraiment cette intellectualisation du football, de poésie, de romantisme.
Oui, et puis tous les gens, même des élus, des députés, des présidents, osent dire « je suis un passionné, j'aime tel club ».
Et lui, il amenait ça. Et lui, il amenait cette passion-là. Et puis quand on l'écoute, de toute façon, c'est sa passion qui est là. Et il aurait aimé être footballeur, il aurait aimé être journaliste sportif. Et ça ne l'empêchait pas d'être brillant dans son domaine. Donc c'était un homme magnifique.
Moi, je suis convaincu aussi par ce rôle très pertinent. Et il a été peut-être l'un des rares quand même à l'incarner, ce rôle pertinent. Alors, c'était un des aspects, mais ce trait d'union entre un sport comme ça, universel, effectivement populaire, et quelque chose de peut-être un peu plus intellectuel. Il y avait, en France, on a quand même quelques exemples. Je pense à Antoine Blondin, puisqu'on parlait de L'Équipe. Antoine Blondin qui a mis des mots merveilleux aussi sur... Alors, le Tour de France avant tout, mais des chroniques de sport.
Et il aimait le cyclisme en général.
Aussi,
Bernard Pivot.
Et ça, c'est formidable parce qu'on se dit aussi souvent, pour prolonger ce que dit Bruno, on se dit aussi souvent que la littérature foot, elle est faible, elle est pas forcément merveilleuse intellectuellement, il n'y a pas forcément des grands romans, il y a quelques personnages, au premier rang desquels Bernard Pivot, qui ont fait justement le lien entre le football et quelque chose de peut-être un peu noble à raconter.
Non, mais c'est vrai, en Amérique du Sud, on a souvent des grands chanteurs, je pense à des chanteurs populaires aussi, comme Chico Buarque, qui adore le foot, qui en parle, qui le chante. Il y en a qui l'ont écrit aussi. George Benjor, lui, chantait des chanteurs des joueurs de Flamengo. En Uruguay, il y avait un grand intellectuel, j'ai que son prénom, qui avait écrit aussi un livre, Eduardo, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, lui, il était intégré un peu, il faisait partie de la deuxième chaîne française, alors c'était Antenne 2, après ça a été France 2. Mais le service des sports travaillait avec lui, lui a fait commenter des matchs. Coupe du Monde 1986, par exemple, au Mexique, où il était allé avec Bernard Père à l'époque. Il a écrit des livres, La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Il fournissait des livres, officieusement, comme il dit, à l'équipe
C'est
de
beau,
France,
ça, quand même.
À travers l'intendant d'alors qui était Henri-Émile. Il faisait passer de tout, apparemment, des polars, la science-fiction, quelques petits livres porno, disait-il. Et puis,
de l'histoire.
Voilà. Après, il dit l'écran m'a tué parce que les images, les vidéocassettes et tout ont un peu brisé la glace. Et il recevait dans son émission, il a reçu Robert Herbin, Robert Herbin à l'époque, après la grande épopée de Saint-Etienne. Raymond Gueltas, c'était après l'épopée de l'OM, l'entraîneur. Et puis Aimé Jacquet, après 98. Et là, c'était après la victoire, première victoire de Coupe du Monde de la France. Merci beaucoup, Monsieur Pivot, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, et notamment sur les livres. Et voilà, et c'est la fin de cette deuxième édition en direct de Radio Foot International. Je vous rappelle le score du match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund s'est imposé à l'aller comme en retour sur le score de 1-0. Et ce sont donc les Allemands de ce club de la Ruhr qui seront finalistes de la Ligue des Champions à Wembley. Le 1er juin prochain, demain soir, une autre demi-finale. Nous serons là en direct avant et après le match, tout comme d'ailleurs jeudi, lorsque jouera l'OM du côté de Bergame. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à demain donc. Bonne nuit à tous.